Onde durable.
Terrain commun, récit d'écologie populaire.
À la rencontre de celles et ceux qui font vivre une écologie populaire au quotidien.
Ancrée dans les territoires, les pratiques et les récits.
Bonjour à toutes et à tous. Comment répondre à la problématique de l'artificialisation des sols ? Sur les îles ou sur nos côtes, nous arrivons à des limites. Résidences secondaires, pression immobilière spéculative, les habitants à l'année peinent à se loger, encore plus à accéder à la propriété. Construire de nouveaux logements ? Non, à certains endroits, c'est devenu écologiquement irresponsable. Une des réponses à cet immense dilemme pourrait être l'habitat participatif et coopératif. Nous en parlerons dans quelques minutes avec Kevin Chenel. Il est docteur en aménagement de l'espace et urbanisme à l'École nationale supérieure d'architecture de Nantes. Mais tout d'abord, direction l'île Dieu, île très concernée par ces enjeux. Ici, les résidences secondaires représentent 60% du parc et l'offre de location à l'année s'est effondrée de 30% en 10 ans. La commune cherche donc la parade et vient de lancer une expérimentation d'habitat coopératif. C'est un reportage de Laurent Tarot de Neptune FM, votre radio associative sur l'île Dieu en Vendée.
Sur le locatif, qu'il soit privé ou public, on n'a pas assez de logements sociaux et on a notre parc locatif privé est trop petit actuellement.
Emmanuel Maillard, adjoint délégué en charge de l'habitat à la mairie de l'Île-Dieu.
L'accession, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on a un vrai frein sur l'accession à la propriété du fait de l'augmentation du foncier, du fait de l'augmentation du prix de la construction et surtout de l'augmentation du prix de vente d'une maison. On a un prix immobilier qui a augmenté de 60% en 5 ans.
Une stratégie Habitat est en cours de définition. Elsa Marché, chargée de mission Habitat.
75 foyers en recherche de logement. Donc ça révèle vraiment un besoin de logement, mais il est difficile à chiffrer à l'instant T. Et au-delà de ça, on sait qu'on a des personnes qui sont dans un logement, mais qui souffrent de mal logement, avec des logements très peu isolés, des situations très, très compliquées.
L'île Dieu s'étend sur 2466 hectares. Le taux d'artificialisation des sols est de 36%, soit 826 hectares.
Ça correspond au tissu urbanisé de la commune. Si on compare à d'autres territoires, c'est un taux qui est relativement important. À Belle-Île, par exemple, on est à 12%, ou à l'échelle du territoire de la Vendée, on est également à 12%. Donc 36% sur une commune, c'est un taux qui est assez important. L'artificialisation, elle est principalement due à l'habitat. 74% est due à l'usage résidentiel. Et en fait, cette artificialisation, elle continue à grandir chaque année. Et sur la période 2011-2020, il y a 30 hectares qui ont été consommés. Et il y a une loi à l'échelle nationale qui s'appelle la loi ZAN, zéro artificialisation nette, et qui vise à réduire l'artificialisation sur l'ensemble du territoire national. Et donc pour les 10 années à venir, donc sur la période 2021-2031, on doit réduire de moitié l'artificialisation qu'il va y avoir sur le territoire par rapport à la dizaine d'années précédentes. Donc on doit passer à moins de 15 hectares d'artificialisés sur les années à venir.
Maintenant, on arrive à cette étape, à cette phase de l'histoire de l'île-Dieu où il ne reste pas tant d'hectares à artificialiser et en plus on va être contraint et par la loi et par les conditions qui nous entourent, donc érosion dunaire, inondation, etc. Donc ce qui nous reste, il faut qu'on décide de ce qu'on fait de ces terres à artificialiser, à construire. Donc là, on arrive avec les chiffres qu'on a où on doit se dire que sur les 10 ans à venir, c'est 15 hectares. Sur la décennie suivante, ça sera donc 7,5. Sur la décennie après, ça sera 4-5 hectares. Et après, c'est fini. Donc, tout le travail qu'on fait là, d'études et de mise en place d'une stratégie, pour nous, c'est de se dire, ce qui reste, il faut le privilégier pour la résidence principale. Parce que là, on va plus pouvoir, à un moment donné, on pourra plus partager entre toutes les utilisations. Donc ce qui reste, il faut le garder pour les résidents permanents.
Une des pistes de solution, l'habitat coopératif, Roxane Berger, membre de la coopérative et future résidente.
Un projet d'habitat coopératif, c'est un type d'habitat participatif où les habitants se regroupent pour organiser, construire leur quartier, penser leur quartier tous ensemble, réfléchir à comment est-ce qu'ils vont installer leur maison, etc. Et ils mutualisent autant que faire se peut et autant qu'ils en ont envie pour essayer de rationaliser la consommation d'espace et puis créer de la vie de groupe au sein de leur quartier.
L'appel à projet a été lancé le lundi 23 septembre 2024. Danielle Alix, coopératrice et future résidente.
Les logements appartiennent à la coopérative, donc les habitants sont des locataires de la coopérative, contrairement à la propriété privée ou à la location chez un privé.
On va essayer de mutualiser aussi des parties communes, c'est-à-dire qu'on réduit un peu nos habitations pour pouvoir avoir des bâtiments un peu plus grands partagés. Du coup, donc là, pour l'instant, il y a 8 foyers. Donc il y aura 8 maisons et une partie commune. Du coup, pour pouvoir faire ces parties communes, puisque malheureusement, comme partout, la superficie se paye, donc du coup, on a réduit nos parties de maisons pour pouvoir gagner des espaces de stockage et des espaces à vivre en fait communs.
Ça représente combien de résidents, résidentes ?
Eh bien, cela représente un groupe de 23 personnes, dont 12 adultes et 11 enfants.
Ce qui m'intéresse moi, dans ce projet-là, c'est le fait que les gens se mutualisent pour trouver une réponse à l'habitat ilet.
L'habitat coopératif permet effectivement de proposer une alternative entre l'habitat privé et puis la location privée. Et puis tout autour de cet habitat, il y a la mutualisation qui est importante. Et qui permet aussi aux habitants d'avoir un logement pérenne, de ne plus être à la merci aussi d'un propriétaire privé qui décide de vendre ou de récupérer son habitation.
Et un des objectifs aussi, c'est d'être non spéculatif. C'est-à-dire que le but est d'investir dans des logements qui ne se revendront pas à prix d'or derrière, qu'on ne pourra pas monnayer. Donc c'est ça qui est l'enjeu aussi certain, c'est d'arriver à un logement qui ne se dégrade pas avec le temps et qui, à la finale, peut être utilisé par d'autres gens après, sans pour autant faire des bascules financières.
On a vraiment l'ambition de construire des maisons avec des matériaux sains, renouvelables. Enfin, c'est un de nos gros enjeux sur ce projet. Après, on est bien sûr limité par les problématiques du coût de la construction sur l'île, hein, puisqu'ils sont largement supérieurs à ce qu'on peut trouver sur le continent. Donc il faut d'abord qu'on assure la faisabilité du projet. Et puis dans cette faisabilité, on mettra tous les curseurs le plus haut possible pour avoir des logements bioclimatiques et écologiques. On est sur un coût d'opération qui est légèrement inférieur à 3 millions d'euros. C'est quand même une grosse enveloppe à gérer. Mais après, je rappelle que c'est quand même un quartier de 8 logements. Donc forcément, ça a un coût, surtout sur l'île. Le financement, c'est tout un montage, bien sûr, derrière. Il s'agit de trouver... Alors, il y a toute une partie, bien sûr, de subventions potentielles, notamment auprès de l'ABM, etc., à aller rechercher pour tout ce qui peut concerner l'aspect écologique dont on parlait. Après, il peut y avoir... bien sûr, il y a un apport des habitants qui pourront récupérer en quittant la coopérative. Et c'est un montage de parts sociales, en fait, comme pour... comme pour toute coopérative, les coopératives agricoles, les coopératives bancaires, on peut aller chercher de l'investissement citoyen, de l'épargne citoyenne, sous la forme de parts sociales. On espère très très fortement pouvoir travailler le plus possible avec des personnes de l'île. Après, c'est, comme dit, c'est un gros projet, donc il faut voir si ça collera en termes de planning. Voir s'il y a des disponibilités des entreprises locales pour pouvoir intervenir sur cette opération.
Existe-t-il des projets similaires sur d'autres îles métropolitaines ?
À notre connaissance, on sera la première. Voilà, on est vraiment sur une expérimentation. Réussir à faire des coopératives dans les îles, ça existe sur le continent, ça existe énormément dans d'autres pays, hein. Ça représente quasiment 40% du parc de logements à Oslo, par exemple. Il y en a beaucoup en Suisse, énormément à Genève, voilà. Mais c'est vrai qu'en France, on en est au balbutiement des coopératives et dans les îles, ça n'existe pas encore. Voilà, on espère réussir à être les premiers et à faire des petits. On a eu l'occasion de discuter avec des personnes de Bréa pendant les insulaires qui avaient été fortement intéressés par l'idée. Voilà, des gens à Belle-Île aussi, qui regardent un petit peu ce qu'il en est. Après, voilà, il faut que nous, on essuie les plâtres, on trouve le modèle juridique, on trouve le modèle économique, financier, le modèle constructif. Et puis, bah, quand on aura essuyé tous ces plâtres, on espère surtout que ça permettra d'en refaire d'autres à l'île-lieu et d'autres ailleurs dans les îles.
Cette coopérative d'habitants s'appelle La Gabière, Daniel Alix.
Eh bien, ça a été très difficile de trouver un nom pour cette coopérative. Et finalement, on était attaché aussi au monde maritime. Et ben, La Gabière, c'est issu du gabier. C'est celui qui règle la voilure dans un voilier. Donc là, ben, on est tous gabiers, en fait, à bord de la coopérative.
Voilà, à l'instant, ce reportage sur l'île-Dieu en Vendée, première expérience d'habitat coopératif menée sur nos îles pour lutter contre l'artificialisation des sols et la pénurie de logements disponibles. Pour aller plus loin sur cette initiative qui pourrait faire des petits, Laurent Tarot de Neptune FM s'est entretenu avec Kevin Chenel. Il est docteur en aménagement de l'espace et de l'urbanisme à l'Université de Nantes.
Alors moi, je m'intéresse à la conception et à la production du logement dans, on va dire, ce qui sont les espaces plutôt périurbains et ruraux, des espaces où se concentre en fait aujourd'hui une part très importante de l'urbanisation contemporaine, on pourrait dire, et où surtout les enjeux, on va dire, de renouvellement un peu des modèles d'aménagement, ils sont très importants, notamment pour limiter en fait l'artificialisation des sols, tout en continuant eh bien, à loger. Ça veut dire aller notamment vers du renouvellement urbain et de la rénovation de patrimoine existant, par exemple. Donc voilà, mes recherches, elles se déploient plutôt à partir d'une pratique de l'enquête. J'enquête beaucoup sur le terrain et du coup, ça me permet de voir vraiment au plus près les acteurs du territoire sur comment ils fabriquent ces projets, quels sont les outils qui accompagnent ces projets et puis bah, surtout les modèles et les alternatives qui se développent.
Vous nous avez parlé d'artificialisation des sols. Ce projet d'habitat coopératif sur l'île-Dieu, la Gabière, est-ce selon vous un bon moyen et une bonne alternative afin de limiter cette artificialisation des sols qui n'est pas extensible ?
Eh bien oui, alors tout à fait. Alors, ce sont souvent effectivement ces projets de coopératives, en tout cas des projets qui sont pensés dans leur ensemble, avec effectivement eh bien, l'enjeu de privilégier... une compacité hein, des logements et par ailleurs eh bien c'est souvent l'occasion de mutualiser un certain nombre d'espaces qui permet de limiter justement l'emprise au sol. Mais c'est vrai que peut-être que ce projet d'habitat coopératif, me semble-t-il, c'est surtout aussi une bonne alternative pour produire du logement autrement. Voilà, dans un contexte effectivement territorial qui, comme d'autres, hein, est marqué par effectivement une tension sur le logement, avec ce parc immobilier hein, qui est mobilisé à 60% pour des résidences secondaires, cette offre locative privée, avec notamment de la location touristique, bref, avec un certain nombre effectivement de, on va dire, de logiques hein, spéculatives sur le foncier comme sur l'immobilier. Lié à cette attractivité touristique. Donc c'est vrai que entre ce modèle, on va dire, plutôt privé de production de logement et un modèle de production du logement social qui peine souvent à se développer dans ces territoires, on peut dire que cette troisième voie de la coopérative habitante, c'est vraiment un modèle effectivement qui permet justement de corriger ces effets, on va dire, du marché privé avec une accession plus abordable. C'est ce que proposent des coopératives HLM par exemple. Et puis c'est bien entendu un modèle d'innovation sociale hein, qui permet de remettre au centre du jeu, vraiment les habitants, de la conception à la gestion, comme c'est le cas à La Gabière, me semble-t-il.
Est-ce que vous avez déjà travaillé sur un des projets d'habitat coopératif ou pas du tout ?
Alors moi, j'ai surtout enquêté autour de projets d'habitat participatif. Alors, la notion d'habitat participatif, elle est un peu plus large que la question des coopératives habitantes, mais effectivement, on retrouve un certain nombre d'enjeux assez proches hein, autour effectivement de l'enjeu de pouvoir remettre au centre du jeu ses habitants. Après, il y a effectivement des logiques, on va dire, de montage et de processus qui sont assez différents, où notamment, dans le cadre de la coopérative, il y a vraiment cette idée aussi hein, de vraiment détenir des parts sociales en commun autour de l'immeuble, mais surtout d'avoir un usage après de l'habitat qui permet vraiment de limiter les effets spéculatifs. Il y a des formes d'habitat participatif qui retombent dans de la copropriété plus classique et les questions de spéculation sont peut-être moins encadrées. Le défi aujourd'hui, je dirais, pour les acteurs de la fabrique des territoires que nous sommes, bah, je dirais que c'est surtout de produire du logement peut-être sans construire. C'est là un peu la difficulté, notamment effectivement par des actions de rénovation et de densification, hein, alors que ce soit bien sûr sur les copropriétés privées, hein, c'est une part très importante du parc en France, avec des enjeux de rénovation qui sont vraiment importants et plus complexes que sur l'habitat individuel, hein, mais qui peuvent être de vrais leviers pour retrouver effectivement du logement et pour densifier parfois, hein, pour produire davantage de logements. Il y a bien sûr densifié dans ce qu'on va appeler les petites dents creuses, là. Donc c'est vraiment dans ces territoires diffus, on va essayer d'activer davantage ce levier où les acteurs s'emparent de ces questions, mais aussi d'investir, par exemple, les tissus pavillonnaires, parfois perçus comme, ou en tout cas décrits comme sous-occupés, avec possiblement des intensifications d'usage, hein. Ça veut dire, par exemple, pourquoi pas développer de la location de tout ou partie du logement. Donc voilà, il y a des pistes effectivement intéressantes de ce côté-là. La transformation, bien sûr, de friches et d'immeubles de bureaux, hein, qui ont beaucoup contribué d'ailleurs à la spéculation et à la financiarisation du logement ces dernières années. C'est l'objet d'un travail d'ailleurs qu'on mène avec des collègues architectes à l'école d'architecture, hein, sur comment changer d'affectation ces bâtiments de bureaux, et puis produire autrement. Ça veut dire développer du logement collectif, aussi dans ces territoires plus diffus, avec effectivement des difficultés aujourd'hui d'équilibre économique de ces modèles, et donc qui sont plutôt tournés vers la maison individuelle. Mais ce sont des territoires où on peut retrouver des situations littorales où la tension est un peu plus forte et où ça peut être intéressant d'avoir aussi un levier d'action sur, la limitation justement de cette spéculation foncière. Le bail réel solidaire, par exemple, qui est très complémentaire du modèle coopératif, est intéressant, c'est-à-dire que une foncière, la collectivité et d'autres acteurs vont pouvoir garder le foncier pour favoriser l'accès au logement abordable et surtout limiter du coup, hein, effectivement, la spéculation. Je disais que c'était complémentaire de la coopérative parce que du coup, ça touche aussi d'autres publics. C'est souvent sous condition de revenu, ce qui n'est pas forcément le cas de la coopérative, hein, où les habitants ont un autre rôle et sont engagés un peu différemment dans le projet.
Ces solutions envisageables peuvent être transposées à tous les territoires.
À tous les territoires, oui, à la question territoriale, c'est une très bonne question. On voit bien qu'on a effectivement des registres d'outils, de leviers d'action qui sont assez différents. La coopérative, par exemple, c'est effectivement transposable, si je puis dire, dans l'ensemble des territoires. C'est vrai que on a dans chacun de ces territoires, en fait, on va dire des contraintes géographiques qui peuvent être différentes, des enjeux de préservation des paysages également, mais aussi, on va dire, un contexte d'acteurs qui peut être assez variable. Et donc, ce qui va jouer en général dans ces situations, notamment périurbaines, littorales, etc., c'est la capacité, en fait, aussi, hein, à venir diversifier l'offre de logement. Et là, c'est vrai que la coopérative peut être un bon levier, à condition qu'effectivement, il y ait des stratégies foncières qui soient mises en place au préalable pour permettre le développement de ces projets. Et après, peut-être que la question de la transposition, hein, de ce modèle, c'est effectivement peut-être moins le projet architectural qui est transposable que le processus, hein, ce processus justement de développement d'une coopérative par des habitants, accompagné par une collectivité. C'est d'ailleurs un processus qui est plutôt très ancien, puisque le mouvement coopératif, date plutôt du 19e, puis il s'est développé au cours du 20e, avant d'être un peu limité dans les années 70, puis aujourd'hui on y revient. Et il y a d'ailleurs des pays, hein, comme la Suisse, qui sont très souvent cités en exemple, hein, en école d'architecture. Le cas zurichois est assurément un cas très largement mobilisé par les collègues et les étudiants.
Pour ces futurs projets d'urbanisation, les changements climatiques sont vraiment à prendre en considération.
Ah oui, assurément. C'est vraiment... l'enjeu contemporain central, si je puis dire. Alors, l'une des clés, c'est bien sûr de limiter cette urbanisation, hein, comme je le disais, en travaillant sur les espaces déjà urbanisés. Et puis, lorsqu'on a un projet, effectivement, d'urbanisation, c'est de penser différemment, à la fois sur le plan du rapport au sol, hein, et au paysage. Donc, sur le plan du sol, c'est déjà préserver les sols nourriciers, envisager aussi des formes de renaturation des sols, de dépollution. C'est-à-dire qu'on va renforcer par le projet le caractère habitable des lieux. Et puis, c'est préserver les trames paysagères, les cours d'eau, bien sûr, hein, qui sont des vrais alliés pour limiter les îlots de chaleur. Parce que quand on parle de ce dérèglement climatique, il y a bien sûr cette question des îlots de chaleur en période de canicule. Et donc, ça, c'est des vrais alliés pour nous. Et puis, c'est limiter l'emprise au sol. C'est le sujet qu'on évoquait juste avant pour le bâti, mais aussi par des projets d'espaces publics paysagers qui, effectivement... sont de vrais leviers pour limiter les îlots de chaleur, mais aussi pour voilà, dans des territoires, par exemple, en secteur inondable, bah, peuvent permettre aussi hein, de rendre, on va dire, les espaces plus résilients en acceptant, par exemple, le débordement des cours d'eau. C'est le cas de projet développé notamment par un collègue, Éric Daniel Lacombe, architecte urbaniste, qui s'intéresse beaucoup à ces questions. Voilà, l'enjeu, c'est vraiment de repenser nos rapports au milieu que l'on habite. Et puis, bah, à l'échelle architecturale, c'est bien sûr remettre au centre du jeu cette conception, on va dire, bioclimatique et un usage des matériaux, on va dire, bio et géosourcés, c'est-à-dire le bois, la terre crue, pour diminuer l'empreinte carbone du bâtiment, mais aussi pour renforcer le confort d'été, justement, au-delà du confort d'hiver qui reste bien sûr important. C'est un très vaste sujet et qui voilà, nous occupe pleinement, à la fois dans le champ pédagogique comme de la recherche scientifique.
Kevin Chenel, architecte urbaniste, docteur en aménagement de l'espace urbanisme à l'École nationale de supérieur d'architecture de Nantes. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Vous venez d'écouter Terrain commun, récit d'écologie populaire.
Une collection de reportages produite par la CORLAB, la coordination des radios locales et associatives de Bretagne.
Et la FRAP, la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire, dans le cadre du projet Ondes Durables.
Ces reportages sont à retrouver sur ondes-durables.fr. Ondes Durables est un projet soutenu par l'État dans le cadre du dispositif Soutenir les alternatives vertes 2 de France 2030, opéré par la Banque des Territoires, Caisse des dépôts.